je voudrais peut-être parler au nom de la santé au travail, d'abord pour remercier M. Tessier pour l'invitation et la participation à l'organisation de cette journée. Je pense que c'est à l'image d'une évolution progressive depuis plusieurs années du rapprochement entre la santé environnementale et la santé travail. Je pense qu'on s'est peut-être pendant quelques années un peu ignoré. Et souvent, on se plaignait un petit peu du fait qu'on disait que ce qui se passait à l'intérieur de l'entreprise se passait aussi hors de l'entreprise, mais qu'en fait, on regardait dedans, mais on ne regardait pas dehors. Et c'est un petit peu, c'est assez intéressant, j'entendais tout à l'heure ce que disait Isabelle Baldi, en disant qu'il y avait tout état d'analyse faite au niveau des pesticides pour les agriculteurs, mais qu'on n'avait jamais étudié les riverains. On est vraiment dans ce qui s'est passé, je pense, pendant quelques années entre santé travail et santé environnementale. Donc je veux vraiment remercier pour voir ceci. Et je pense l'intérêt aussi de pouvoir écouter tous ces travaux de recherche pour aussi la question qui se pose de la mise en pratique, nous, à notre niveau, au niveau aussi des médecins du travail, c'est-à-dire connaître un petit peu l'état des recherches pour pouvoir aussi savoir appliquer, parce que je pense que quand on y réfléchit, la santé travail a essentiellement fait de la prévention et que nous sommes particulièrement mauvais dans l'application du principe de précaution, que nous sommes en train de commencer à connaître avec justement les nanoparticules, mais qu'on est très très débutant. Je pense que vraiment la médecine du travail a fait de la prévention. D'ailleurs, c'est sa définition, c'est une médecine de prévention, mais un petit peu oublié le principe de précaution.
Je vais essayer de vous donner quelques éclairages à partir d'une enquête qui s'appelle Baromètre Santé, on va y revenir, sur justement comment est perçu l'environnement par les Aquitains, c'est-à-dire aussi par vous, hein, faut pas l'oublier. Donc il y a quelque chose de très important qui a été dit ce matin, ça a été dit plus ou moins, c'est quand même l'information. L'information est extrêmement importante. On l'a vu pour le principe de précaution. Monsieur Dab nous a bien expliqué que lorsqu'on expliquait bien les choses, on avait une approche plus facile de la population et une acceptation plus facile des propositions. Alors je vais aller très rapidement sur le baromètre santé. Le baromètre santé est un document qui existe depuis de nombreuses années, qui se penche sur plusieurs sujets ou qui est général et qui essaie de voir les comportements et les attitudes des Français, hein, puisque c'est fait en France. Il existe aussi un baromètre santé européen. Des populations, soit sur l'ensemble des problèmes de santé, soit sur des problèmes spécifiques, et aujourd'hui on peut parler de l'environnement. Alors ce qu'il y a de nouveau depuis quelques années, c'est qu'il y a le baromètre santé est une enquête qui est faite au niveau national depuis de nombreuses années, mais depuis quelques années on a une approche régionale, et c'est très intéressant parce que bon, vous savez que la santé, l'approche de la santé au niveau régional est importante, hein. C'est intéressant aussi d'avoir des différences qui peuvent exister sur ces aspects-là au niveau des régions. Alors, qu'est-ce que le baromètre santé? Je vais le résumer. C'est une enquête téléphonique, hein, qui est faite auprès d'un échantillon représentatif de la population française. Alors, dans le cas présent du baromètre santé environnement, qui a été réalisé en 2007, c'est 18 à 75 ans. Et donc, les extensions régionales ont été faites cette année-là pour les régions dont vous voyez les noms apparaître sur la diapositive. Globalement, dans les régions, l'échantillon est de 1000 à 1800 personnes, et pour l'Aquitaine, il était de 1367 personnes. Ce qui est intéressant dans cette approche régionale que nous avons réalisée, c'est qu'elle permet, bien sûr, de se comparer à la moyenne national, au résultat du baromètre santé national, mais aussi à se comparer entre les régions. Les sujets abordés sont nombreux. On n'en verra que quelques-uns aujourd'hui. Donc la connaissance de l'environnement et des risques environnementaux, les différentes pollutions, certaines ont été exposées, la pollution atmosphérique. Alors si j'avais bien préparé, j'aurais vu qu'on avait parlé de la pollution atmosphérique, j'aurais dû vous donner quelques éléments là-dessus. Vous ne les aurez pas, mais vous aurez la chance de les avoir dans des documents que je mettrai à votre disposition. Donc l'habitat, On a parlé des problèmes de pollution, produits ménagers, de bricolage ou de jardinage, qui ne sont pas négligeables du tout, sur l'eau, bien sûr. Et je pense qu'à la table, il y a des gens intéressés par ce problème de l'eau. La légionellose, le bruit, les téléphones portables. Surtout, et c'est sur ça que je me pencherai, l'opinion, l'expertise, l'information et l'action des pouvoirs publics dans ce domaine. On voit les pratiques, comportements, la santé perçue, le tabagisme. Je ne viendrai pas sur tous ces sujets, rassurez-vous. Alors, en Aquitaine, la sensibilité des Aquitains à l'environnement, je ne rentre pas non plus dans les méthodes d'interrogation, ni les techniques qui seront expliquées dans le document, auxquelles je pourrais vous répondre si nécessaire. La sensibilité en Aquitaine est relativement importante, tout est proportionnel. Plus de la moitié des personnes sont sensibles aux problèmes d'environnement et 23% sont très sensibles. Donc c'est fait les trois quarts des Aquitains qui sont sensibles. Alors je vous montre des chiffres généraux, je ne reviendrai pas à chaque fois sur les différences, mais sachez qu'il est évident que la sensibilité n'est pas la même selon le sexe, elle est plus forte pour les femmes. Elle n'est pas la même selon l'âge, elle est plus faible pour les jeunes et évidemment, elle est aussi beaucoup plus élevée selon le diplôme. Plus on est diplômé, plus on est sensible dans cette enquête, bien entendu. Alors l'intérêt que je vous ai souligné, c'est de pouvoir comparer avec les régions qui ont fait la même étude et la moyenne nationale. On voit que globalement, les régions sont au même niveau que la France métropolitaine, à l'exception de la région PACA, qui montre une sensibilité un peu moindre pour ce problème d'environnement. Alors de quoi a-t-on peur avec ces problèmes de pollution, d'environnement? Eh bien, on voit que le premier risque qui est retenu, c'est le cancer, un peu moins de la moitié. Ensuite, vous avez un certain nombre d'autres problèmes qui sont exposés, l'anxiété, par exemple, stress, sommeil. La légionellose, par exemple, n'est qu'à 10% sur l'inquiétude des Aquitains. Alors, un problème aussi que je souhaite aborder et qui rentre tout à fait, je pense, dans la réflexion qu'il y a eu aujourd'hui, c'est le degré de confiance dans l'expertise scientifique et particulièrement lié au sentiment d'information. Parce que on en a discuté et je crois que ça fait débat sur l'expertise scientifique. On a quand même, sur certains thèmes, une grande confiance sur l'expertise scientifique dans le domaine. Vous voyez que pour l'amiante, par exemple, on a plus de trois quarts des personnes qui sont très confiantes ou plutôt confiantes. Je vais prendre l'aspect positif, bien sûr, je ne vais pas prendre l'aspect négatif. Et cette confiance diminue selon les différents thèmes. On a parlé des pesticides tout à l'heure. Vous voyez que pour les pesticides, la confiance est un petit peu moindre. Et pour le téléphone mobile, mais ce n'est peut-être pas un hasard, la confiance semble moins élevée. Lorsque l'on regarde nos collègues d'autres régions et la France, on voit que finalement, sur un certain nombre de thèmes, la confiance dans l'expertise scientifique est assez élevée, enfin plus élevée en Aquitaine un petit peu plus élevée que les autres régions. C'est un constat. Alors, autre sujet qui rentre tout à fait, je pense, dans la discussion que nous avons eue, c'est, nous avons eu un ancien directeur de la santé, donc, qui est tout à fait pertinent pour cela, quelle opinion on a à l'égard des actions des pouvoirs publics. Et là, bien sûr, on voit que le degré de satisfaction n'est pas tout à fait le même pour tout, et il peut être moins élevé que, par exemple, pour l'expertise scientifique. Notamment encore, on retrouve quand même les pesticides et la téléphonie mobile parmi les opinions avec un certain nombre de méfiances. Si l'on compare cette opinion dans les différentes régions qui ont participé à cette étude, on voit des variations qui ne sont pas significatives, mais qui montrent qu'il y a peut-être des petites différences entre les régions. Alors, que sommes-nous prêts à faire pour agir en faveur de l'amélioration de l'environnement? Bien, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Est-ce que l'utilisation de transports en commun, vélo, covoiturage, était quelque chose d'envisagé? On voit que c'est quand même plus de la moitié des personnes qui le font déjà, et que les trois quarts, enfin, 34% de plus seraient prêts à le faire. Les engagements sont un petit peu différents. L'engagement associatif est un petit peu moins important. Notez le boycott des entreprises polluantes qui recueille un suffrage assez élevé. Autre problème, et là c'est très intéressant de savoir que un certain nombre de personnes sont prêtes à faire un effort financier pour essayer d'avoir, alors on a parlé des pesticides dans l'alimentation tout à l'heure, avec les limites que cela peut avoir de la connaissance des conséquences, hein, mais la question a été posée et un certain nombre de personnes ont répondu. Près de 80% sont prêts à faire un effort financier pour manger des fruits et des légumes sans pesticides. Avoir une voiture moins polluante, des appareils ménagers moins bruyants, l'eau de robinet de meilleure qualité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que les réponses, mais ça vous vous en doutez, sont différentes selon les catégories socioprofessionnelles et selon les niveaux de revenus qui correspondent. Plus on est dans les classes socioprofessionnelles à lever, il est évident que les réponses sont plus positives de faire un effort financier. Ça va de soi, mais c'est mieux de le dire. Alors globalement, j'aurais pu vous parler aussi de la pollution de l'air intérieur, hein, c'était très intéressant, de gens, comment on fume selon qu'on a des enfants ou pas des enfants, est-ce qu'on fume à l'intérieur ou pas, on a toutes ces choses-là qui sont décrites dans le document, je ne fais pas de publicité, mais je vous avoue que c'est très intéressant. Ceci étant, il y aurait aussi quelque chose d'intéressant à dire, mais je vais le dire justement, sur l'oxyde de carbone. Par exemple, il y a environ, je crois, 15% de personnes qui pensent que l'oxyde de carbone a une odeur. Donc je cite ça comme ça, chemin faisant, mais c'est intéressant de voir la connaissance aussi qu'ont les gens des problèmes d'environnement. Alors pour terminer, donc, on remarque quand même qu'il y a une sensibilité aux problèmes d'environnement en rapport avec la santé, qu'il y a quand même une bonne confiance dans l'expertise scientifique, malgré les problèmes qu'on a évoqués, plus circonspect, bien sûr, vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics, mais peut-être, et je crois que M. Dab nous l'a bien expliqué, qu'une bonne communication peut-être désamorcer des problèmes qui pourraient être très importants. Et il y a une bonne partie qui sont prêts à modifier leur comportement, bien sûr, avec les limites qu'on a évoquées, notamment financières. Alors l'apport de ce baromètre santé, c'est la connaissance basée sur une population régionale qui est assez intéressante. On peut se comparer, donc, comme je l'ai déjà dit, avec le national et d'autres régions. Ça a été un apport, enfin je l'espère, mais je crois que ça a été un apport pour l'élaboration du programme régional santé-environnement. Sachant que la connaissance sur le 63% des personnes ne connaissaient pas le plan national santé-environnement dans notre enquête. Et puis donc on peut faire des approfondissements de cette étude. Simplement pour rappel, cette étude a été financée donc par la DRAS, hein, la DRAS autrefois, hein, puisque c'était avant le 1er avril, le Conseil régional et l'INPES. Ça a été fait donc en collaboration avec les observatoires régionaux de santé dont vous avez vu les noms tout à l'heure, la FNORS et l'INPES. Et je vous cite les auteurs. Je vous remercie de votre attention.
Moi je suis un technicien. Un petit peu technicien chef, mais technicien quand même. Et en conséquence, je n'interviendrai pas ici en tant qu'expert du principe de précaution. Mais je vais tenter d'apporter un témoignage, je l'espère un petit peu original, sur une structure qui aide les autorités à se positionner entre précaution et prévention. Je vais le faire en répondant à deux questions. Premièrement, comment nous concevons à ERAC la gestion des risques environnementaux? Et deuxièmement, quelle place accordons-nous aux principes de précaution et aux principes de prévention par rapport à la gestion de ces risques environnementaux? Ceci étant, avant de démarrer, pour donner probablement perspective aux propos que je vais tenir après, je me dois d'abord de faire connaissance avec vous en vous expliquant qui est ERAC. Alors, je reviens sur 10 ans en arrière, sur la seconde loi sur l'air. J'entendais ce matin avec émotion parler de la première loi sur l'air. Bravo, Monsieur Tessier, de vous rappeler ça. Plus personne ne s'en souvient. Bien la première fois que je viens dans une conférence pour entendre parler de cette loi de 1961. Ceci étant, en 1996, l'État dit un certain nombre de choses dans cette loi, notamment confie la surveillance de la qualité de l'air à un réseau d'associations, loi 1901. ERAC a donc cette charge sur le territoire aquitain. Nous sommes donc dans un statut associatif composé d'un certain nombre de collèges, très rapidement les représentants de l'État, les représentants des collectivités, les représentants des établissements contribuant à des émissions polluantes dans l'air, en raccourci les industriels, et un quatrième collège constitué de personnes qualifiées et d'associations, tant de défense des consommateurs que de défense de l'environnement. Nos missions sont de mesurer des concentrations de polluants dans l'air, en clair, de mettre à disposition des autorités des données, notamment pour activer des procédures, des protocoles, notamment des protocoles d'alerte. C'est effectivement sur la base de données d'ERAC qu'en cas de dépassement de valeurs réglementaires, un préfet de département ou un préfet de région peut enclencher des mesures visant par exemple à diminuer des vitesses de circulation sur des axes routiers, à réduire voire stopper des activités industrielles. Deuxièmement, de mener des études ayant pour objet d'exploiter ces données, d'indiquer comment on se positionne par rapport à la réglementation, quelle est la tendance. Troisièmement, de mettre à disposition ces données et de procéder à une information et à une sensibilisation de toutes les personnes visées par la loi sur l'air, en conséquence par l'ensemble de nos citoyens. Et nous considérons que nos clients, au sens noble du terme, au sens qualité, sont les 3 millions d'Aquitains qui vivent effectivement sur notre territoire. Quatrième mission, contribuer par nos données à la mise en place de politiques de prévention de la pollution atmosphérique. Nos métiers à ERAC sont tout d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, un métier de technicien. Concrètement, nous sommes des métrologues. Nous disposons d'un parc constitué d'un certain nombre de stations réparties sur l'ensemble du territoire. On acquiert à peu près 10 000 données par jour, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait ça. Deuxième métier, un métier d'ingénieur d'études. Donc faire effectivement en sorte que les données soient utilisables, et je reviendrai là-dessus après. Troisième métier à ERAC, un métier d'information et de sensibilisation, en soulignant le fait que l'ensemble... Alors, je ne sais pas si on applique le principe de précaution à ERAC. Par contre, on applique un principe de transparence, puisque l'ensemble des données et des publications sont effectivement mis à disposition de tous. Bien. Alors, pour éviter d'être trop long, comment concevons-nous à ERAC la gestion des risques industriels? Alors tout d'abord, je souligne le fait que nous disposons d'un système réglementaire qui couvre beaucoup de choses. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que nous mesurons des concentrations de polluants. Quels sont ces polluants? À très grande majorité, ce sont effectivement des polluants qui font l'objet aujourd'hui d'une réglementation. Ceci étant, comme toujours, il existe, et ça a été évoqué, peut-être pas directement mais indirectement, un décalage entre réglementation et problématique qui sont concrètement constatées sur le terrain. Et en conséquence, il nous arrive bien entendu de devoir procéder à des mesures, à des études concernant des polluants qui eux-mêmes ne font pas l'objet d'une réglementation dans le segment, évidemment, je souligne, dont nous nous occupons. L'exemple typique, c'est les pesticides qui aujourd'hui, dans les secteurs atmosphère ne font pas l'objet d'une réglementation particulière et pour lequel ERAC procède effectivement à des mesures. Alors, vous comprenez que nous sommes donc un acteur de terrain, des métrologues, et à ce titre, nous ne sommes pas gestionnaires de risques environnementaux. Ceci étant, nous développons, nous, et c'est donc cette réponse, c'est la réponse que nous apportons à nos interlocuteurs, nous développons des outils, notamment de modélisation, visant effectivement à pouvoir faire une corrélation entre les effets sanitaires constatés et des valeurs objectives concernant les émissions de pollution ou la présence de polluants dans l'air. Et de ce fait, les données sont mises à disposition d'un certain nombre de plans et de programmes visant à anticiper des évolutions. Et là, notamment, je fais référence à tout ce qui est plan régional santé-environnement, schéma régional air-énergie-climat, plan climat, plan de prévention de l'atmosphère. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je vais arrêter là cette liste. Mais voilà, on apporte concrètement des données sous différentes formes auprès des autorités tant territoriales que services de l'État pour la mise en place de ces services qui en l'occurrence, effectivement, visent la prévention. Alors, ça me permet de faire le lien sur la deuxième question que je rappelle, qui était « Quelle place accordons-nous à ERAC au principe de précaution et de prévention ?» Alors, là, deux réponses. La première réponse officielle, c'est que ERAC s'inscrit, vous l'avez compris, dans le cadre de la loi. Hein, il existe un code de l'environnement, que j'ai d'ailleurs, dont j'ai un extrait sous les yeux, qui cite très clairement, ça a été d'ailleurs complètement dit ce matin par le professeur Dame, un article du code de l'environnement évoque les principes de précaution, de prévention, principe pollueur-payeur et principe de participation. Alors, évidemment, à ce titre-là, nous respectons ça. Ceci étant, la deuxième réponse plus honnête de ma part est de dire que nous sommes un outil mis à disposition d'acteurs décisionnaires, de gestionnaires de risques, et visant à évoluer d'une situation de précaution à une situation de prévention. Hein? Ce matin a été évoqué le fait que précaution, et pour le dire de façon très triviale, c'est on essaye d'agir. Quand on ne sait pas, la prévention, c'est on agit et on sait, et l'ensemble de nos données sont effectivement mis au service des gestionnaires pour faire en sorte d'obtenir des données objectives permettant de limiter autant que possible, d'évoluer dans une situation de précaution pour basculer autant que possible dans une situation de prévention. Alors, je vais donner, si j'ai encore une seconde, je vais donner un ou deux exemples de cette stratégie, enfin de cette politique. Je pense que c'est vraiment une politique de notre structure. Dans le début des années 2000, on ne parlait pas de PM01, on ne parlait pas de PUF. Ça n'existait pas. Si, ça existait, mais les scientifiques n'étaient pas assez avancés. On parlait de PM10. Et ça, la réglementation était en place. Par contre, on ne parlait pas encore de PM25. Et ERAC s'était engagé dès le début des années 2000 à mesurer les particules fines en suspension de diamètre inférieur ou égal à 2,5, alors que la réglementation n'est entrée en œuvre qu'en 2008. Ces données ont été particulièrement utiles. Alors, nous n'avons pas la prétention à ERAC de penser que la réglementation des PM2,5 s'est mise en œuvre grâce à ERAC. Non, bien entendu. Mais ceci étant, les données dont nous disposions et dont nous avons évidemment fait état, ont certainement été extrêmement utiles dans la mise en place de cette réglementation, dans la fixation des seuils et également dans le lien fait avec les données épidémiologiques. Deuxième exemple, et ça c'est quelque chose de plus nouveau, c'est que nous avions jusqu'à il y a encore quelques années une responsabilité qui touchait l'atmosphère, en clair l'air extérieur. Prenant conscience de la problématique liée à l'air intérieur, nous avons élargi nos missions et nous contribuons aujourd'hui, je n'ai évidemment pas le temps de détailler tout ça, ceci étant je suis à votre disposition pour y répondre, nous contribuons par des mesures à effectivement organiser une réglementation à venir, qui d'ailleurs a été annoncée par l'État dans le cadre du Grenelle 2, à la réglementation dans des lieux bien spécifiques, un lieu accueillant des personnalités sensibles, établissements recevant du public, donc à la mise en place d'une réglementation en air intérieur. Voilà.
Monsieur Bourquin, Et ce matin, il a été fort question de la loi de 1961 qui a ravi certains partenaires. Moi, je vais commencer par vous remonter plus en avant et faire un peu d'archéologie administrative et vous parler de la loi de 1902 sur l'hygiène publique. Je considère qu'on voit mieux là où on va à partir du moment où l'on sait d'où l'on vient. Donc ce sera la première partie du discours. Ensuite, peut-être statuer sur l'ARS, c'est quoi, et santé et environnement dans l'ARS, puis finir par quelques réflexions. J'aurais dû mettre un transparent avant celui-là, qui est la révolution pasteurienne, ce qui fait qu'entre 1870 et 1890, on met des noms de bactéries derrière des pathologies humaines qui sont dévastatrices, qui s'appellent choléra, qui s'appellent typhoïde, qui s'appellent tuberculose. Donc d'un seul coup, on comprend mieux ce qui se passe et on se dit que l'homme se contamine par l'intermédiaire peut-être de ce qu'il boit sous forme de liquide, de ce qu'il mange sous forme de solide, voire éventuellement autre chose. Et on voit une réaction commerciale de l'époque d'une société qui existe toujours, hein, la société Agnos, qui fabrique des infectants à particules hospitaliers, qui, elle, ne parle pas de prévention, elle parle de traitement, et de traitement, on va dire, efficace, rapide, censé éliminer les différents animalcules dont Pasteur est peut-être avec Koch en Allemagne à l'origine de la découverte et dont la presse se fera souvent écho de raillerie vis-à-vis de ces personnages qui découvrent des animalcules qui sont censés véhiculer des bactéries dont les médecins n'ont pas toujours identifié la réalité et l'impact. Dans les mêmes années, un panneau scolaire, pour les personnes de ma génération, ça doit parler, à savoir ce qui décorait les écoles primaires jusque dans les années 1960-70. Ce genre de panneaux ont relativement disparu, ils ne sont pratiquement plus fabriqués et plus affichés. Ça, c'est intéressant, comment on peut voir que ce panneau qui a un titre en haut à droite, hygiène, se traduit par de l'eau, de l'air, de la lumière. Et les conseils sont relativement savoureux et les illustrations intéressantes. Jusqu'à 14 mois, rien que du lait aux enfants, donc là, privilégie l'allaitement maternel, ce qui est quand même un fondement toujours de la santé, surtout dans les pays en voie de développement, lorsqu'on reconstitue du lait avec de l'eau de mauvaise qualité. Pas de langes serrées, pas de corset serré. Un élément environnemental, air confiné, air vicié. Un autre élément environnemental, tenez vos fenêtres fermées le jour et entrouvertes la nuit. Pour les myopes comme moi, entre parenthèses, c'est marqué en été. Le conseil ne s'applique pas à l'hiver. Pour les personnes d'origine bretonne, pas de rideau au lit, pas d'alcôve. Là aussi, c'était un grand classique pendant longtemps dans l'habitat. L'élément majeur, où le soleil n'entre jamais, le médecin entre souvent. Je pense qu'en zone rurale, on avait plus tendance à faire venir le vétérinaire pour soigner le bétail que le médecin pour soigner la famille. Le monoxyde de carbone, en haut à droite, pas de poêle à combustion lente. Je pense que les jeunes collègues qui sont là autour de la table, quand ils entendent parler du poêle à combustion lente, ça doit ne pas leur parler du tout. Mais c'était quand même quelque chose de très utile qui permettait, en l'absence de chauffage central, de bourrer le poêle et de passer la nuit au chaud sans se relever. Le problème étant souvent que l'oxyde de carbone passait lui aussi la nuit. Faites au moins une lieue par jour, un conseil de bonne mise en forme. Fuyez le petit verre comme la peste. Élément intéressant, quand vous voyez ces deux illustrations, hein, la sobriété où quand même on a le litre de vin rouge sur la table et l'intempérance où on consomme de l'alcool fort entre hommes au bistrot. C'est relativement intéressant de voir les choses. Tête froide, pieds chauds, ventre libre, je soumettrai à l'assistance les hypothèses qui sont derrière cette maxime. Et puis, un élément environnemental qui est quand même un des fondements de l'activité de notre ministère, c'est s'assurer que l'eau n'est pas empoisonnée par les fausses aisances. Entre autres, éviter de contaminer le propre que vous buvez par le sale que vos animaux ou que vous-même excrétez. On passe dans les années 20, en Belgique, vous voyez, quelque chose d'intéressant. Ce service existe toujours parce que cette affiche, j'ai eu à en demander les droits de reproduction, hein, Là où n'entre pas le soleil des soleils, entre la tuberculose, ouvrez donc la fenêtre. C'est donc la prévention de la tuberculose. Il y a une même affiche sur la prévention de la syphilis, où le slogan est ravageur sur la syphilis qui est un témoin de l'inconduite et de la race. Je ne sais pas si William Dabb est parti. Je pense qu'il est parti. Il a été un temps président, je crois, de la PPA au niveau national. Et donc, la PPA étant la structure qui a hérité des campagnes de lutte contre la tuberculose, des campagnes annuelles de vente de petits timbres, hein, que là aussi les gens de ma génération connaissent bien. Premier trimestre de l'année scolaire, tous les ans, il fallait vendre des timbres. Intéressant de voir que là, dans les années 20, vous voyez, puisque là on a des chiffres qui sont 1918-1926, hein, on fait la promotion à tuberculose par l'eau de bonne qualité, ce qui peut apparaître aujourd'hui un petit peu bizarre. La même chose, le timbre antituberculeux de 1938, hein, n'était propre avec l'eau chez soi, là aussi promotion de lutte contre la tuberculose. Un élément historique qui a été produit, c'était un espèce de double A4 à l'occasion du centenaire de la loi de 1902 et qui note certaines dates importantes après 1902, hein, là aussi pour les situer dans l'histoire. 1920, hein, création du ministère, on va dire, chargé de la santé au niveau français. 1920, après l'épidémie de grippe espagnole, les anglo-saxons créant l'équivalent de ce ministère-là dans les années 1880 en Angleterre. Donc on avait déjà 50 ans de retard par rapport aux Anglais. 1945, ordonnance créant la sécurité sociale. 1948, création de l'OMS, l'OMS au niveau international, alors que l'Organisation panaméricaine de la santé au continent américain était créée au début du siècle. L'OMS n'a été créée qu'en 1948, ainsi que toutes les organisations satellites des Nations Unies. 1950, vaccination obligatoire contre la tuberculose. 1946, création de la DGS. 56, pardon, merci, création de la DGS. 64, création des DAS. Qui ont disparu cette année. 1982, décentralisation qui répartissent les compétences entre le Conseil général, les communes et l'État, surtout en matière d'action sociale. 1999, création de l'Institut de veille sanitaire. Ça s'arrête en 2002 parce que c'était le centenaire de la loi de 1902. À côté, toujours dans ce double A4, quelques illustrations un peu rigides, hein, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en termes de propreté, donc des conseils sur la propreté du corps, sur la propreté du logement, etc. etc. Une petite affiche que vous voyez peut-être mieux que moi sur la promotion de l'eau de distribution publique dans les années 20 pour soulager essentiellement la partie féminine de la population qui, dans tous les pays du monde, comme en France, se coltinait la corvée d'eau. Et puis là, je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça, la publicité de Frigidaire, hein, qui dit un Frigidaire, un médecin chez vous. J'avoue que c'est quand même assez intéressant. Je n'ai pas fait dans l'affichage politique, j'aurais pu le faire parce que j'ai aussi des affiches politiques. 1902, pour revenir à la tournée du siècle, pratiquement dans tous les pays développés, essentiellement les pays d'Europe, les États-Unis, peut-être quelques autres, on a une réflexion dans tout le 19e siècle avec des conférences internationales d'hygiène pour lutter d'abord contre l'extension de la... des maladies quarantenaires, hein, qui s'attrapent en allant en pèlerinage, qui s'appellent peste, qui s'appellent fièvre jaune, qui s'appellent choléra, etc., etc. Et donc, cette loi de 1902, pour là aussi ceux qui s'intéressent à l'archéologie administrative, hein, c'était les 40 premiers articles du Code de la santé publique avant qu'ils soient renumérotés. C'est-à-dire aujourd'hui, les articles sont renumérotés. Si vous avez un vieux Code de la santé publique, allez regarder. Les 40 premiers articles du Code, c'est la loi de 1902. Si on la résume en un mot, cette loi, on le résume en mot prévention. Si on résume en une ligne, on résume en une phrase, c'est prévention contre l'extension des maladies infectieuses. Je ne bois pas d'eau en bouteille, par principe, dans une ville où l'eau est distribuée par une collectivité publique et qu'elle est actuellement bonne et qu'il n'a pas d'information disant qu'elle n'est pas bonne. Merci madame. Donc prévention avec un élément... À deux jambes, une prévention dans le domaine de l'environnement, une prévention dans le domaine de la santé, en sachant que le mot environnement n'existe pas au début du XXe siècle. Les grands principes sont ceux qui sont simples aujourd'hui, hein. On établit une liste de maladies transmissibles à déclaration obligatoire à l'échelle nationale et à l'OMS, son ancêtre en début du siècle qui a son siège à Paris et où on parle français. Des infections obligatoires pour les maladies à déclaration obligatoire, Donc ça, c'est à la charge des collectivités. Et vaccination obligatoire. Et là, on rend obligatoire la seule vaccination contre la variole, par le fait aussi que les Allemands, pendant la guerre de 70, vaccinaient déjà contre la variole, et que ça avait montré une efficacité majeure par rapport aux Français qui, eux, ne vaccinaient pas contre la variole. Dans le domaine de l'environnement, on dit qu'il y a des règles sanitaires de base à établir, du style qu'on ne vit pas dans une cave, qu'on ne vit pas dans des locaux fermés, qu'il faut un minimum peut-être d'eau, d'assainissement, de ventilation, etc. etc. Ces règlements sont établis et ne sont pas applicables aux ateliers et manufactures. Donc, déjà, ça montre bien que les installations classées sont hors du champ et que le code du travail aussi est hors du champ. Délivrance du permis de construire. Chaque nouvelle construction doit faire l'objet d'un délivrance de permis de construire dans les villes de plus de 20 000 habitants. Si je vous avais demandé le permis de construire d'où ça vient, je pense que vous m'auriez dit c'est une réglementation d'habitat, d'urbanisme et sûrement pas une réglementation santé. Lutte contre l'habitat insalubre, donc là c'est la codification des droits que le préfet peut avoir pour lutter contre l'habitat insalubre au type rénovation Baron-Haussmann à Paris. Et puis protection des captages d'eau publique. Vous voyez, le seul élément qu'on voit hors habitat, hors règles simples, c'est les captages d'eau potable. Intervention en cas d'épidémie. Ces textes-là existent toujours, ce qui a permis au gouvernement de prendre des dispositions très précises à l'occasion de la vaccination contre la grippe A. C'est sur la base de ce genre de principe. Donc, à mettre en œuvre localement ou national, par décret et financé par l'État. Surveillance épidémiologique, ce terme-là n'existe pas au début du XXe siècle, mais il est intéressant. Parce qu'on dit que les maires qui sont représentants de l'État enregistrent les décès, les naissances depuis 1791, après que la Révolution ait considéré que le clergé n'avait plus à tenir l'état civil, c'était le maire en tant qu'état qui devait le tenir. Donc, il peut, un maire, faire un petit travail rapide dans l'année, dire combien il y a eu de décès, et on arrive à un taux local, un taux départemental, un taux national. Et il doit y avoir une intervention lorsque, pendant 3 années de suite, dans une commune, ce taux dépasse la moyenne nationale. Et la France ne serait pas la France s'il n'y avait pas d'organisation administrative. Un service de contrôle et d'inspection au niveau départemental, à l'époque financé par le Conseil général, aujourd'hui financé par l'État, dont nous sommes, nous, héritiers d'AS. Et dans les villes de plus de 20 000 habitants, l'obligation pour les élus de créer un bureau municipal d'hygiène, de personnes au moins dans l'assistance en sont membres de ce genre de structure. Un conseil départemental d'hygiène qui a changé de nom, et puis un conseil consultatif d'hygiène publique qui remontait au début des années 1800 pour conseiller le gouvernement en cas de crise sanitaire. Un siècle après 1902, qu'est-ce qui reste? La prévention dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'environnement existe toujours. Les responsabilités des élus sont toujours les mêmes. Les élus sont depuis 1791 responsables de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Le problème important concernant plusieurs communes à ce moment-là est de la compétence du préfet, mais initialement le maire est responsable de ça. Ce que n'est pas un maire anglais, ce que n'est pas un maire italien, ce que n'est pas un maire allemand, c'est une spécificité la française. Intervention en cas d'épidémie au niveau local ou national, c'est toujours en vigueur. Surveillance épidémiologique, on a des structures locales comme les cellules interrégionales d'épidémiologie, et puis au niveau national, on a l'INVS. Et puis l'organisation administrative a peu changé, si ce n'est que les appellations ont changé. Le conseil consultatif d'hygiène publique aujourd'hui n'existe plus. Par contre, on a des agences qui lui ont succédé de type AFSA, AFSET et autres autorités de sûreté nucléaire. Au niveau départemental, les choses ont peu évolué. Et les pouvoirs du préfet sont toujours un peu les mêmes sur le fond. Avril 2010, création des ARS, donc Agence régionale de santé. Donc c'est une conséquence de la loi dite HPST, Hôpital, Patients, Santé, Territoire. L'objectif est d'assurer un pilotage unifié de la santé en région. Et elle regroupe en une seule unité plusieurs organismes chargés de la politique de santé en région et en département, dont un morceau des DRAS, un morceau des DAS, l'Agence régionale de spécialisation, le groupe régional de santé publique, l'Union régionale des caisses d'assurance maladie et le volet hospitalier de l'assurance maladie géré préalablement par le régime général de l'assurance maladie, le régime agricole et le RSI, régime social des indépendants. Nous, Santé Environnement, nous faisions partie au niveau départemental des DAS, nous faisions partie au niveau régional des DRAS. On est tous passés avec armes, bagages et compétences sous tutelle ARS. J'en ai bientôt fini. Donc, en gros, quels sont nos objectifs majeurs en matière santé environnementale vu côté santé? Mise en application du plan régional santé environnement de deuxième génération en Aquitaine, par application régionale de plan national, le plan national santé environnement. Intéressant de se rendre compte qu'à l'origine, ces plans nationaux santé environnement ont été déclinés dans la région Europe de l'OMS par demande de l'OMS. C'est une demande santé internationale. Ce n'est pas une demande directive européenne. C'est une demande purement Bureau régional d'Europe de l'OMS. Et nous, en ce qui nous concerne au niveau départemental, on a un travail très régalien d'appliquer, de faire appliquer la réglementation existante. On n'en a pas parlé de ce sujet-là, mais qui est un sujet majeur, en particulier dès lors que cette réglementation concerne des élus et que ça vise, par exemple, la qualité de l'eau potable, que ça vise les baignades, que ça vise les piscines, ou des éléments importants comme la prévention de l'amiante ou la prévention de la légionellose. Quelques réflexions personnelles sur les deux enjeux. Je pense que santé-environnement, c'est important comme concept. Moi, ça fait 30 ans que je suis fonctionnaire. Je pense que c'est la première fois que j'entends une réunion, ou que je participe à une réunion comme celle d'aujourd'hui, où j'entends parler santé-environnement. Vraiment, je trouve ça fondamental et très intéressant. Jusqu'à maintenant, santé-environnement, c'était l'apanage de quelques initiés avec une terminologie qui ne parle pas au public parce que santé, on voit bien ce que c'est. C'est mon médecin, c'est l'hôpital, c'est la sécurité sociale. Environnement, on voit bien ce que c'est aussi. Santé-environnement, ça reste plus ombrageux comme notion. Sauf que si on commence à parler des problèmes comme illustré dans la fiche des années 1800, on comprend un peu mieux ce que ça peut être. Alors, c'est un lieu à risque qui intéresse beaucoup les médias. C'est un lieu à risque parce que c'est à l'interface entre l'environnement et la santé. Santé humaine et animale. Je pense qu'on oublie de temps en temps l'indicateur que peut représenter la santé animale. C'est aussi à l'interface où c'est transversal d'effets sanitaires à court, moyen, long terme. Ça concerne différents mondes qui ont peut-être pas l'occasion de se voir si souvent que ça, hein. Le monde de la santé, le monde de la recherche, des sciences de l'ingénieur, des sciences sociales et le monde tout court. Le préventif curatif, les anglo-saxons sont peut-être un peu meilleurs que les français sur l'équilibre à mettre entre le préventif et le curatif. La responsabilité individuelle ou collective, on attend effectivement beaucoup en France que la responsabilité collective s'opère sans forcément dire que soi-même on est prêt à faire beaucoup d'efforts. Des niveaux d'exposition et des lieux d'exposition qui sont diverses, hein. Son propre habitat, l'air extérieur, les locaux de travail, l'exposition par l'air, les aliments, le contact, le rayonnement, etc., etc. Et puis un élément qui a été un petit peu une forme de fil rouge dans la discussion d'aujourd'hui, qui est l'interface ou le transversal entre la recherche, l'évaluation de risque et la gestion de risque. Avec, là aussi, il faut être très conscient du système français qui sépare le législatif, l'exécutif et le judiciaire. En sachant que on a des éléments en France qui sont très précis, qui sont la contrainte que n'ont pas beaucoup de pays, qui est l'application de directives européennes et le rendu compte par l'État français à Bruxelles de l'application de directives européennes et la possibilité de se faire condamner pour non-respect des directives européennes. Sans compter l'aspect judiciaire de la mise en cause de la responsabilité de personne. Alors, moi, si j'avais aussi un conseil à donner, et on a quand même un bon exemple aujourd'hui, c'est le partage de culture. Le partage de culture, l'enseignement scolaire, aujourd'hui, les éléments majeurs de bon sens de type hygiène publique, ils ont disparu des milieux scolaires. Le lavage des mains en premier et le reste pratiquement de la même façon. Et puis la formation initiale et continue des professionnels, et je rends là aussi hommage aux organisateurs. Et je terminerai par cette représentation qui remonte à il y a 15 ans, hein, c'est copyright personnel, mais libre de droit de reproduction, hein, pour dire qu'on a peut-être des difficultés en matière de surveillance de la santé, en matière de surveillance de l'environnement, avec dans certains côtés des réseaux. Après, on peut avoir des réseaux, mais pas de centralisation de l'information. Donc les réseaux surveillent, mais l'information n'est pas centralisée. Et puis l'échelle encore supérieure, c'est la mise en relation des problèmes de santé pouvant avoir un impact sur l'environnement. Et des dysfonctionnements de l'environnement qui pourraient avoir un retentissement sur la santé. Et dès lors qu'on a quelque part quelque chose qui commence à clignoter, immanquablement doit se faire l'information. Donc la formation vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des professionnels de la santé, l'information vis-à-vis des professionnels de l'environnement. Mettre en œuvre des actions curatives, c'est la moindre des choses, et ne pas oublier de tirer l'expérience pour mettre en œuvre des actions préventives. Dernier élément de conclusion, on attend d'un fonctionnaire de l'État français qu'il applique la réglementation. C'est la moindre des choses. Et un juge ou un journaliste, quand on le côtoie, c'est ça qu'il attend. Et à l'extrême, c'est le défaut qu'il cherchera à voir dans votre cuirasse si finalement vous faites bien votre travail. Donc on a des objectifs très importants de faire appliquer la réglementation, parce que la réglementation, surtout en matière de prévention, est faite pour limiter les risques à court, moyen, long terme. Elle doit limiter aussi la condamnation de l'État français pour non-respect de directives européennes, ce qui est quand même un élément très important de nos collègues d'administration centrale. Et puis, il faut faire aussi attention à protéger notre responsabilité administrative et pénale. Deuxième point de quotidien, on a à gérer les problèmes dans le quotidien, mais on a aussi à gérer les problèmes de situation d'urgence. Et William Dab me rappelait ce matin un souvenir qui pour moi a été très chaud, à savoir la gestion de la marée noire de l'Erika. Quatrième point, on essaye au niveau de la DRAS et maintenant de l'ARS d'Aquitaine de fédérer, je dirais, le maximum de partenaires du domaine de l'administration, du domaine de la société civile, de l'évaluation, de la gestion autour du plan régional de santé et environnement qui est à son deuxième numéro et qui a pris beaucoup d'écho dans la mesure où le plan régional de santé et environnement découle du plan national de santé et environnement qui lui est rattaché au Grenelle de l'environnement, ce qui est assez fondamental. Je rappellerai aussi, certains interlocuteurs l'ont dit, que l'ARS est financeur d'études, elle a financé des études de Mme Baldi, elle a financé des études de Mme Ryerson, elle finance ERAC, elle finance l'ORSA. Donc ce n'est pas simplement qu'une administration qui applique la réglementation. Merci de votre attention.
Je suis toujours étonnée, quand je vous ai entendu dire que vous passez au niveau de l'ERAC de la précaution à la prévention, je dirais qu'au niveau santé-travail, on rêverait peut-être un jour de passer de la prévention à la précaution. Je pense que pour ceux qui ont vécu l'histoire de l'amiante, c'est peut-être un peu douloureux, cette histoire-là. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, que la médecine du travail se définit comme une médecine exclusivement préventive et qui a pour objectif d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Ceci n'a jamais bougé et même si la future réforme pour l'instant a été retoquée par le Conseil constitutionnel, ça a répété exactement la même chose. Je pense qu'on est quand même devant une problématique d'une médecine qui cherche absolument à avancer, mais qui aussi est excessivement réglementée et donc on ne peut aussi appliquer que ceux qui sortent. Hein, et donc on est des fois un petit peu en retard. Mais je voudrais juste, c'est peut-être pas conclure, mais ouvrir le débat pour dire aussi que pour participer aux des travaux de recherche dont on a bien besoin qu'on a vu dans toute cette journée, qui peuvent aussi ensuite nous permettre d'avancer. Je pense qu'à l'intérieur vous savez, je vous le dis, que dans le texte de la réforme de la retraite, il y avait les textes de la réforme de la médecine du travail, pour ceux qui n'ont pas suivi, et donc le texte de la réforme de la retraite est passé, et le Conseil constitutionnel a retoqué tous les textes concernant la médecine du travail, mais a gardé deux articles dedans qui me paraissent excessivement importants et qui vont rejoindre peut-être les éléments qui vont permettre aussi la recherche. C'est que donc maintenant le dossier de médecine de santé au travail doit être conforme au dossier médical de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire que nous allons donc avoir maintenant un travail excessivement important avec les services santé au travail, les médecins du travail, pour qu'ils mettent tous en place un dossier médical qui va être excessivement nourri d'informations. Alors bien sûr, on va payer tout le passé qu'on a pendant des années et des années, mais je l'espère vraiment très fortement que nous pourrons aussi, via ces dossiers de santé au travail, donner toutes les informations que nous avons en médecine du travail et que nous ne savons pas exploiter actuellement ou permettre de donner à la science. Et donc j'espère qu'à l'avenir, justement, toutes ces données qu'on va avoir dans ces dossiers de santé au travail pourront être des éléments aussi qui nous permettront peut-être à l'avenir de passer justement à la précaution. Voilà.
Donc vous parliez de l'hygiène dans les écoles. Bon, je pense que quand même l'hygiène dans les écoles a beaucoup évolué. Bien sûr, il a fallu l'année dernière rappeler les règles d'hygiène de base, notamment se laver souvent les mains. Bon, imaginez, on a 500 000 enfants à l'école. En Aquitaine, s'il fallait se laver les mains, comme nous adultes, on se lave les mains, on se les lave finalement pas loin de 10 fois par jour. Donc, imaginez le trafic, si dans les écoles, les quantités de produits de savon liquide ou qu'il faudrait... Bon, on a pu quand même arrêter quelques commandes de maire, alors, d'autant que les locaux... C'est pas nous qui en sommes les propriétaires. Et pour l'anecdote, quand même, l'année dernière, on a pu arrêter une commande de maire qui commandait 50 torchons pour ses écoles. Bon, alors qu'on venait juste de dire... Allez, donc, c'est vrai que quand même, dans l'éducation, il y a... Enfin, dans nos écoles, on va dire, il y a quand même de l'hygiène, il y a quand même des efforts importants faits par la collectivité. On peut pas dire... Alors, effectivement, après l'éducation des enfants, c'est aussi une éducation familiale. Mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de... Par exemple, beaucoup de services de restauration scolaire. Quand il y a 300 enfants qui déjeunent et qui se présentent à midi et demi à la cantine, il n'y a pas 100 lavabos par collège. Hein, donc, bon, il y a des dispositifs pour que les enfants puissent se laver les mains. Mais bon, on ne peut pas non plus optimiser... à ce point les choses. Mais bon, ça c'était simplement parce que pour répondre à cette remarque. Ce que je voulais dire, c'est quand même en milieu scolaire, on est quand même assez sensible aux questions de santé environnementale à travers par exemple en particulier un travail qui avait été fait sur la qualité de l'air intérieur dans nos écoles. Je crois que ça avait... moi j'ai été impressionnée de voir que les enseignants sont venus. Ils ont été très ouverts à ce travail de recherche. Ils attendent les résultats. Ils ont reçu les résultats intermédiaires. Bon, je pense que c'est un milieu qui est milieu de l'école qui est quand même très réceptif à tout ce que toutes les recommandations en matière d'environnement. Il y a un autre exemple sur les sols pollués. Cette étude-là aussi. Nous permet en ce moment de voir que les gens acceptent bien que sans affolement, hein, ils ont bien compris qu'on était dans un principe peut-être d'anticipation environnementale comme ça a été dit ce matin, et qu'ils acceptent qu'on fasse des études sur le lieu de leur école, là où ils vivent depuis des années. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
Il n'était pas de mon fait de faire une provocation vis-à-vis de lavage des mains dans les écoles, mais simplement peut-être aussi faire la remarque que si les enfants ne se lavent pas les mains à l'école, c'est aussi qu'ils ne se lavent pas les mains chez eux. Hein. C'est ça. Et je constaterai aussi que dans la promotion du lavage des mains dans les années dans les livres scolaires du cycle primaire, elle s'est arrêtée dans les années 60. Hein. Et aujourd'hui, on a toute une... Une génération d'enseignants. Mon fils est prof, hein, donc je parle en connaissance de cause, qui a jamais entendu parler du sujet. Hein. Donc, lui n'ayant pas entendu parler du sujet à l'école, je vois pas comment il peut faire la promotion aux enfants. Quoi. Mais je pense que c'est un vrai sujet sur le fond.
Je ne peux que confirmer qu'effectivement, nous recevons un écho très positif de la part des enseignants. ERAC est effectivement intervenu sur un certain nombre d'établissements, crèches, écoles primaires, dans le cadre d'une étude qualité de l'air intérieur, dans une perspective de réglementation sur ce domaine. Ça a si bien marché qu'on a effectivement pris conscience que la démarche que nous entreprenions par le passé, à savoir faire venir des élèves à ERAC, était une démarche finalement assez inefficace. Nous avons inversé la logique et aujourd'hui, nous sommes actuellement d'ailleurs en train de passer une convention avec le rectorat, avec une perspective qui n'existe plus à terme, en Aquitaine, d'enseignants sciences physiques, sciences naturelles, SVT, collège, lycée, qui n'auraient pas été sensibilisés sur la thématique de la qualité de l'air. Nous mettons donc, aujourd'hui ça a déjà démarré, nous recevons effectivement à ERAC, cette fois-ci des enseignants qui eux-mêmes peuvent en effet faire relais de cette thématique auprès de leur classe, en considérant le fait que nous mettons à leur disposition de la théorie, de la pratique, donc de la théorie, c'est toute la chimie de la pollution atmosphérique, de la pratique, c'est concrètement des données, et troisièmement, des outils effectivement de sensibilisation, de la documentation, et l'ensemble de ces démarches qui ont d'ores et déjà été faites ont prouvé en effet tout leur succès.
Peut-être sur l'amiante. Alors là, j'étais quand même un petit peu déçue entre la prise en charge véritablement des personnels qui ont été exposés à l'amiante, qui n'intervient pour nous dans l'éducation que depuis 2 ans. Alors que le délai entre la connaissance du problème et un début de suivi de personnes, ça fait quand même 15 à 20 ans, quoi.
Je vous rappelle quand même que le dossier amiante, en France, il a été initié dans une structure d'enseignement, puisque le dossier amiante, c'était Jussieu. Alors après, effectivement, on a eu un peu de mal à faire passer des messages pour que les professionnels de l'enseignement puissent bénéficier des mêmes garanties, des mêmes mesures de prévention que les professionnels dans l'environnement général. Mais toute la réflexion est partie de ce milieu qui était Jussieu. Hein.
Ce que je voulais dire par rapport à cette réflexion et par rapport à l'agence régionale de santé, puisque moi j'y travaille mais en tant que médecin, c'est qu'on a des nouveaux outils qui vont être maintenant le plan régional de santé avec ses axes stratégiques et les schémas, et que la santé environnementale ainsi que les risques sanitaires ont été complètement intégrés à l'ensemble de ces problématiques qui seront dans les schémas régionaux à la fois sur les soins, sur la prévention et sur le médico-social. Donc on peut espérer que cette nouvelle architecture pourra peut-être donner puissance et sens et un peu coordination à la fois sur la santé, sur l'environnement et sur la santé publique, et également avec les nouveaux outils de démocratie sanitaire que sont la conférence régionale de santé et les conférences de territoire, où on peut espérer que les allers-retours territoriaux et régionaux vont aussi pouvoir être pris en compte. En même temps, la santé environnementale et les autres domaines que peut gérer l'ARS.
Bon, je crois que la journée a été très riche. On a vu justement que toutes les frontières sautaient, que, y compris avec William Dame, qu'il n'y avait pas tellement d'opposition de principe entre précaution et prévention. Tout ça, c'est un continuum et deux outils de la santé publique. Alors, Patrick, tu étais supposé faire une conclusion, mais tu as déjà en grande partie fait ta conclusion. Donc, peut-être...